gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, au 102.2 ou sur radiocanu.org, et c'est la causerie, bah, c'est dimanche 22h, comme on le dit toutes les semaines, voilà. Et donc, bah, ce soir, nous avons à la technique Jean-Yves.
Bonsoir.
Oh là là, la catastrophe.
Et au commentaire perfide, Stan.
Bonsoir. Et Fab qui a fait l'ouverture.
Et bonsoir. Et donc, je vais vous rappeler que pour nous écrire, c'est tout facile, il suffit d'écrire à lacauseriecanu@gmail.com. Tout attaché en minuscules, lacauseriecanu@gmail.com. Si vous avez perdu l'adresse mail et ou que vous voulez réécouter des émissions, et ben ça se passe sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Donc sur les blogs de Radio Canu, vous cherchez la causerie, il y a même notre adresse, il y a tout ce qu'il faut. Et sinon, on a un espace sur Facebook, mais on répond pas aux gens.
Partagez.
Voilà.
Partagez.
Mais partagez, ça nous aide à être connus. Non, c'est con comme phrase, mais ça nous aide à ce qu'on nous connaisse. C'est mieux comme ça. Voilà.
Oui, le résultat est que d'autres gens écoutent nos réflexions, puissent nous dire d'autres réflexions, etc.
C'était ça le mot que je cherchais, partage tout ça, mais je me suis perdu dans ma pensée personnelle à
ça,
moi-même.
C'est son côté à vouloir être plus connu que les autres.
Non, ouais, tout à fait.
Il m'a dit en secret, il va être plus connu que Johnny Hallyday.
Ouais. Genre, moi aussi, je vais passer.
Partagez beaucoup, s'il vous plaît, pour que le rêve des femmes s'accomplisse.
Ça peut marcher, non? Ouvrez-moi une cagnotte, tout ça. Allez, on va démarrer cette émission. Jean-Yves, on part sur les bords du Bosphore avec toi, ce soir.
Tout à fait, pardon. Oui, ce soir, je vais vous parler de la situation des LGBTI en Turquie qui se détériore d'année en année. Petit rappel, LGBTI, lesbienne, gay, bi, trans, intersexe. Voici. Donc, les dernières nouvelles qui nous arrivent de Turquie, hein, c'est que les autorités d'Ankara ont interdit le 15 novembre le festival allemand de films LGBT qui devait se tenir les 16 et 17 novembre. Et donc, cette interdiction est tombée la veille, hein, effectivement, de son lancement. Les autorités ont dit ils citaient les risques pour la sécurité publique et le terrorisme pour interdire donc ce festival. Dans sa déclaration qui a également été annoncée sur son site internet, le gouvernorat a interdit l'activité avec la justification qu'elle ouvrirait ouvertement rancune et inimitié d'un segment du public qui a des caractéristiques différentes en termes de classe sociale, de race, de religion, de secte. Waouh !
De sexe, non ?
De secte.
Ah, de secte ?
Oui.
Ah, quelle drôle d'expression.
Mais parce que je pense qu'ils disent certains mouvements, etc. Ouais, je pense.
D'accord.
Parce que je crois que son opposant Gulen est...
Ah oui, considéré comme une secte, c'est ça, ouais, tout à fait.
Donc voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est pas forcément important, mais quand même pour celles et ceux qui ont vu filer l'info, c'est qu'en fait, l'info qui est sortie au départ, c'est que ça tournait autour de l'interdiction du Queer Festival, qui est aussi organisé à Ankara et à Istanbul, et en fait, c'est pas du tout ce festival-là. Bon, on peut dire qu'il est peut-être quand même en danger si la suite est confirmée. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le festival du film LGBTI allemand qui était soutenu par l'ambassade d'Allemagne, Norvège, États-Unis, etc.
On peut imaginer que les tensions entre la Turquie et l'Allemagne actuelles peuvent aussi expliquer qu'ils ont envie de faire
chier. C'était effectivement la suite de ma... Après cette parenthèse, c'était qu'on pourrait effectivement se dire que ça, tout ça, là, c'est que le fruit des tensions qu'il y a entre la Turquie d'Erdogan, l'Allemagne de Merkel, des embrouilles qui se sont faites, les arrestations que le gouvernement Erdogan a fait. Sauf que, ben, c'est quand même les LGBTI qui sont visés, qui sont montrés du doigt, encore une fois, et ce sont quand même aussi les libertés d'expression et d'organisation qui sont bafouées finalement, et cette interdiction reste, selon aussi des LGBTI en Turquie, bah, contraire à la loi, discriminante et arbitraire, quoi. Mais, ça ne s'arrête pas là. Et oui, parce que le bureau du gouvernorat d'Ankara a déclaré le 19 novembre, donc 4 jours après la première interdiction, qu'à partir du 18 novembre 2017, compte tenu des sensibilités du public, tout événement dans le cinéma, les représentations théâtrales, les interviews et les expositions sont interdites dorénavant jusqu'à nouvel ordre dans notre province afin d'assurer la paix et la sécurité. Voilà, et donc là on est d'accord que c'est plus l'Allemagne qui est visée, hein. D'ailleurs, est-ce qu'elle était réellement visée en fait par ces interdictions, ou est-ce qu'elle servait juste de prétexte finalement pour pouvoir interdire un premier festival, etc.
Je prends l'option 2, moi.
Moi aussi. C'était juste une justification, enfin un prétexte pour la justification. Parce que, encore une fois, c'est pas l'Allemagne qui va subir les conséquences de cette interdiction, c'est encore une fois les LGBTI qui vivent en Turquie, quoi. Et quand même, il faudrait se rappeler que c'est pas la première attaque institutionnelle, étatique contre les LGBTI, hein, parce qu'il faut savoir, peut-être que vous le savez déjà, hein, celles et ceux qui nous écoutent, bah que la marche des fiertés d'Istanbul, elle a été interdite par le bureau du gouverneur d'Istanbul en 2016 et 2017, invoquant des raisons de sécurité, craignant effectivement une potentielle attaque de l'État islamique, et au-delà de des raisons de sécurité et des sensibilités publiques. C'est des belles excuses, hein, pour laisser la place aux réactionnaires. Donc voilà, et juste aussi pour mémoire quand même, c'est que la première marche des LGBTI, elle a eu lieu, qui était permise, hein, elle a eu lieu en 2003, et ça a duré, comme je vous le disais, à Istanbul jusqu'en 2015. Et au fil des ans, effectivement, le nombre de participants et de participantes a augmenté, atteignant des dizaines de milliers de personnes en 2013 et 2014.
Et ça en faisait la plus grosse gay pride de la région.
Bah, c'est exactement ça, ouais, c'était la plus grosse gay pride. Donc, par contre, effectivement, à partir de 2015, hein, en juin 2015, la police a dispersé la marche en utilisant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Là encore une fois, hein, c'est pas l'Allemagne qui est visée, parce qu'elle rentre pas en considération dans ce truc là, ce sont donc encore une fois les LGBTI de Turquie qui sont visés, et je crois que monsieur Erdogan n'est pas très fan des LGBTI, je crois vraiment.
Si, tant qu'ils sont que 100, ne le dérangez pas, ça me dérange.
C'est peut-être ça, oui, tant qu'ils sont silencieux, ça les dérange, ouais. Ça le dérange pas. Ce que je voulais continuer quand même, c'est citer quelques personnes qui sont LGBTI et qui sont en Turquie. Juste les prénoms des témoignages, c'est pas les vrais prénoms, vous imaginez bien. Donc il y a Idil, hein, qui a 25 ans, qui lui vit dans une petite ville au sud de la Turquie, qui dit qu'il est pas surpris en fait lorsqu'il a entendu ces interdictions. Et il disait qu'il a participé lui à la marche des fiertés à Istanbul en 2009. Il disait encore que l'atmosphère était toujours très paisible, mais au cours des dernières années, elle est devenue un tour de force de la police. Les attaques brutales ont déjà donné une idée de ce que nous allions expérimenter. Je ne pense que ce n'est qu'un début.
Il faut se rappeler qu'il y avait eu le parc Gezi, notamment, qui avait été réprimé très violemment et très fortement, et ça avait même surpris en Turquie le degré de violence qu'il y avait eu déployé contre les manifestants du parc. Ouais.
C'est ça. Et il dit donc, continue, et il dit que lui, il est inquiet en fait que l'attitude en fait d'intimidation du gouvernement envers la communauté LGBTI, en fait, ça amène à légitimer en fait toutes les violences en fait qui vont contre les LGBTI. Donc et que effectivement, ça encouragerait les gens à exprimer leurs idées de merde. Et il rajoute aussi, je pense que le nationalisme qui grandit de jour en jour en Turquie a une influence sur ce que les gens pensent de la communauté LGBT. Je rajoute le « i ». Selon la majorité des gens, nous ne pouvons pas être des descendants de nos prétendus ancêtres glorieux. Vous sentez là le roman national, hein, les grands hommes sûrement, majoritairement.
C'est un peu ce qu'on vit un peu partout en Europe. Hein. Il suffit d'écouter un Laurent Wauquiez aujourd'hui pour voir qu'il est sur la même ligne qu'un Erdogan, avec un roman national et des grands hommes, tout ça dont on devrait descendre.
C'est ça. Et il termine donc, idylle, par « Ce n'est pas seulement les gens sans instruction, mais aussi les gens instruits qui pensent être gays n'est pas naturel. Quand ils veulent humilier quelqu'un, ils utilisent facilement le mot « ibne », qui signifie « pédé » en turc. » On connaît à peu près tout ça, cette utilisation de ces mots-là. Donc voilà. Je continue avec Nekmiye, qui a 40 ans, qui travaille à Istanbul, qui a également déclaré que l'interdiction pour lui n'était pas une surprise. Et il a souligné que la position anti-laïque du gouvernement était extrêmement dangereuse. Il y rajoute « On a dit au public que la laïcité était l'ennemi de l'islam et de ses valeurs. Mais les personnes LGBTI sont des citoyens de ce pays et il est du devoir de l'État de les protéger. S'il y a un problème d'homophobie, plutôt que d'essayer d'étouffer le mouvement LGBTI, le public doit être éduqué. »
On peut faire un parallèle aussi avec la peur de la laïcité qui est distillée, soi-disant, parce que ce serait un outil pour être contre les religions et contre l'islam en particulier par certaines personnes ici. Et donc on se rend compte que c'est un discours qui est un petit peu aussi bien répandu, mais oui, qui va toujours du côté de la réaction quand même. Hein.
Bah toujours, enfin. Toujours, enfin, ça se saurait. Enfin, c'est les réacs qui avaient défendu la laïcité, quoi. Et battu pour. Je continue avec Leïla, qui est une étudiante, elle, d'Istanbul, qui a 22 ans, et elle dit en fait que personne ne veut plus assister aux manifestations LGBTI ou protester, que les gens en fait veulent que leur réputation reste propre. Ils ne pouvaient même plus utiliser leur nom ou leur visage pour parler des LGBTI. Et d'autres crimes de haine deviennent plus courants parce que les juges ne condamnent pas les criminels aussi mal en fait qu'ils le méritent. Il y a un autre témoignage aussi, c'est de Sune, qui est un étudiant en sud de la Turquie, qui dit qu'il a été régulièrement intimidé en fait par ses pairs, donc par des étudiants, hein, à cause de son identité. Et il dit, c'est vraiment difficile de vivre en Turquie, nous sommes exposés à beaucoup de discrimination et de mauvais traitements, parce que la majorité de la société est conservatrice. Même nos familles ne l'aiment pas et ne nous acceptent pas. Il est plus pratique de vivre dans les villes cosmopolites comme Istanbul et Ankara, mais la vie est très difficile pour ceux qui vivent dans les zones rurales comme moi. Et ça aussi, hein, c'est pas forcément un parallèle qu'on peut faire, mais en tout cas, je pense qu'on a des similitudes dans plein de pays, j'ai presque envie de dire peut-être la majorité des pays quand même, c'est que quand on est dans une grande ville, alors je prends l'exemple en France, mais Lyon, Marseille, Paris, enfin toutes ces grandes villes, c'est toujours à peu près plus simple en fait de vivre ton homosexualité quand t'es dans le trou de balle du coin et que dans le trou du cul géographique. Hein.
Celle-là, fallait que tu la fasses quand même. Je sais pas comment tu y es arrivé, mais elle t'est bien.
Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est aussi des choses qui se passent aussi et encore aussi en France, faudrait pas l'oublier non plus. Et il rajoute donc cet étudiant que en fait il y a eu un comment on appelle ça, on demande les gens leur avis,
sondage.
Merci. Waouh. On a demandé aux gens lesquels des groupes minoritaires vous ne voudrez pas comme voisins, et 90 à 95% des répondants ont dit que il s'agissait des homosexuels. Voilà, le climat est sympathiquement sympa. Donc voilà. Et je termine juste par Damir, qui lui a déclaré que beaucoup de ses amis avaient déménagé en fait dans d'autres pays en raison de la situation politique et de l'entrave aux droits des LGBT. Et il rajoute, la montée de l'islam politique, je le répète, islam politique, a signifié que toute la législation à l'éducation a été vue comme pas assez islamique en fait. Donc je terminerai juste par dire que le nationalisme, le roman national, l'autoritarisme avec une pointe de virilisme, les religions, avec tout ça comme ligne politique directrice, en fait, sont forcément source de réussite pour Erdogan et ses soutiens. Hein. Et sans oublier aussi, quand même, le rôle clé que l'Europe a donné à ce monsieur Erdogan, en même temps qu'ils lui ont filé des milliards pour garder les migrants dont l'Europe ne veut pas, n'a pas voulu et ne souhaitera, je pense pas, très tôt, de si tôt. On lui a filé pas mal de pouvoir aussi par ce biais-là, enfin l'Europe en tout cas. Hein. Donc voilà.
De pouvoir et de moyens. Parce que c'est 3 milliards qui ont été donnés sans qu'il y ait aucun contrôle de ce qu'ils étaient faits.
Ah bah non, c'est la confiance. Donc
c'est quand même hallucinant, hein, je veux dire.
Oui.
Tiens, clairement, 3 milliards.
Clairement. Donc voilà, ben, comme dit, hein, tout ça, c'est... Alors, toutes ces choses que j'ai énumérées sont des sources de réussite pour Erdogan. Par contre, je pense que c'est autant de raisons, en fait, de mon point de vue, de s'inquiéter pour les LGBTI, pour les femmes, les minorités ethniques et laïques qui vivent en Turquie et que, ben, voilà, on essaie juste d'en parler un petit peu et de continuer à faire exister cette solidarité internationale parce que leur lutte, c'est aussi notre lutte, c'est aussi leur lutte et que les frontières, c'est toujours un truc de nation, hein, donc on va peut-être pas rentrer dans le jeu-là et que, ben voilà, donc lutte internationale avec la solidarité qui va avec. Et je voulais rappeler aussi que, enfin, les problèmes, en fait, enfin les problèmes, la haine que rencontrent les LGBT sont aussi transformés par l'assassinat de pas mal de personnes, ouais, dont une personne qui était trans, je crois d'ailleurs, qui était une des porte-paroles vraiment du mouvement LGBT en Turquie, et ça date d'il y a un an, hein, je crois même pas, donc voilà, donc le climat pue vraiment de plus en plus, enfin je pense qu'il, ouais, ça fait un moment déjà que ça pue, et donc voilà, et ouais.
Moi, je voulais juste rappeler quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est que, en fait, si les personnes d'origine turque qui demanderaient l'asile parce que persécutées en Turquie du fait de leur orientation sexuelle ou de leur statut de personne trans, en fait, sont refusées aujourd'hui en France car la Turquie est vue comme un pays sûr. Voilà. Donc, je voulais juste vous laisser réfléchir à ça.
C'est ça. Et j'ai envie de rajouter, l'ignominie va jusqu'à des personnes LGBT qui, au-delà de la Turquie, hein, on renvoie en Afghanistan.
Oui, aussi.
Parce que c'est sûr. Voilà. Voilà comment sont traités les humains, effectivement. On ne regarde pas les situations individuelles et on est toujours dans des gros groupes, des migrants. Et en fait, on s'en fout de tout ça, quoi. Hein ? Papier pour tout le monde et le droit de circuler pour toutes et tous.
Ou plus de papier pour tous.
Ou plus de papier pour
c'est
tous.
C'est bien aussi,
c'est
de papier
plus
pour
joli, tiens. Et ben voilà, on passe de la musique et on se retrouve tout de suite après.
Everybody knows.
Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu. Et qu'est-ce qu'il y a ?
Un truc que t'assures quoi, paf paf c'est parti quoi.
Eh ouais les gars, qu'est-ce qui se passe ?
On vient d'écouter quoi avant de me lancer ?
Mais t'inquiète pas, ça va venir, calme-toi Stan.
Ah, d'accord, non, j'ai cru que t'allais dire, eh on... Mais non, j'étais perturbé, j'ai eu peur.
Respire, calme-toi. Donc vous êtes toujours sur le 102.2 à Lyon ou sur radiocanu.org. Et c'est la causerie et on vient de s'écouter effectivement Zone avec le titre Proof. Proof. Yes.
Et on peut nous contacter à quel numéro de téléphone?
Allez, tu arrêtes, toi. Et ben, c'est à toi maintenant, donc Stan, et tu vas nous parler de la neutralité du net.
Tout à fait. Je parlais de la neutralité du net. C'est un sujet très intéressant, surtout qu'il revient un petit peu là, grâce à notre ami Trumpounet. Donc, qu'est-ce que c'est que la neutralité du net pour commencer? Donc, c'est un des grands principes d'Internet. Hein. Ça permet de garantir l'égalité. Alors. Ça permet de garantir l'égalité du traitement de tous les flux de données sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'un flux de données ? C'est ce qui transite en fait entre le site ou le service jusqu'à vous. Et ça passe par le fournisseur d'accès Internet. Et donc, ça permet de garantir, voilà, qu'à ce niveau-là, il se passe, il n'y a pas de problème. Mais ça, dans le principe, en fait, il exclut normalement. Hein, toute discrimination à l'égard de la source, donc le site ou le service, et la destination, vous. Ainsi que le contenu, le type de contenu, hein, que ce soit pornographique, politique, etc. On s'en fout, en fait, le fournisseur d'accès n'a pas à avoir une lecture de ça, il doit s'en foutre. Donc c'est un principe fondamental d'Internet qui est resté pendant très longtemps une sorte de règle tacite. C'était nulle part, mais tout le monde l'avait accepté, parce que c'est un petit peu comme ça qu'il avait été créé Internet sur ces thématiques-là. Donc voilà, elle fait pas, elle a jamais fait force de loi, hein, parce que c'est une règle tacite, mais c'était une grande base du fonctionnement.
C'est un usage, comme on dit.
Exactement. Donc, dans l'idée, hein, juste pour reclarifier un peu la chose, ça vous permettait, vous, en tant qu'abonné à Internet chez un opérateur X ou Y, d'aller naviguer dans les mêmes conditions que l'intégralité des autres abonnés sans restriction intentionnelle de débit ou de censure, ou etc., etc. Sur n'importe quel site ou service. Donc. Alors bon, forcément, il fallait réglementer un petit peu ça, donc il y a beaucoup de pays qui ont commencé à rajouter ça un peu dans leurs décrets, lois, etc. Le premier qu'il a fait en termes de loi, c'est marrant, c'est au Chili. Pas du tout en plus, si, voilà, non c'est bon, c'est le Chili. J'ai hésité avec le Pérou pendant deux ans. Non, c'est au Chili qui est précurseur sur la question et qui l'a vraiment défini en tant que loi. C'est un des rares d'ailleurs qui l'a vraiment mis en tant que loi. C'est pas forcément toujours la même chose entre un décret, une loi, etc. Les États-Unis, eux, l'ont mis le 26 février 2015 à quelque chose d'équivalent à la neutralité d'Internet via un décret, mais qui se rapprochait très fortement de ce qu'on souhaite en tout cas. Du moins ce que je souhaite moi personnellement. Je sais pas si tout le monde le souhaite, mais tout le monde le souhaite pas justement vu que Trump ne le veut pas. La France, elle était un petit peu, ça a réfléchi depuis très longtemps sur le sujet, ça l'a mis véritablement en cloi en 2016 avec la loi donc 2016-1321 et ça c'est autour de l'ARCEP. Alors l'ARCEP c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui est censée justement maintenir la neutralité du net et qui est censée vérifier que les fournisseurs d'accès à Internet ne font pas n'importe quoi et ne censurent pas. Alors, il faut savoir qu'ils le font toujours un petit peu, de manière un peu... mais ça reste très honorable. En Europe, là c'était juste, j'ai envie d'en parler parce que c'est une vaste blague, c'était très drôle. Pendant très longtemps en fait, en Europe, on va appeler ça le cul entre deux chaises, c'est « je n'ai pas envie de choisir ». Donc, dans le même texte de loi, on avait à la fois le principe de neutralité du net, donc... voilà, comme on l'a exposé, comme je viens de l'exposer juste avant, et aussi de l'autorisation d'un traitement différencié suivant les services. Ce qui est juste dire pas la neutralité du net. Donc voilà, c'était débile. Ils ont changé ça pour un texte qui est maintenant très très clair, hein, et donc qui définit très clairement la neutralité du net. On va le refaire une dernière fois. Dans le cadre de la fourniture de services d'accès à Internet, les fournisseurs de services d'accès à Internet traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quel que soit l'expéditeur ou le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.
Juste, si je comprends bien, c'est donc finalement les fournisseurs d'accès à Internet qui sont les garants, d'une certaine manière, de la neutralité du net.
Alors qu'ils sont obligés de...
Voilà. Oui, 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 oui.
Voilà.
Oui. En fait, c'est, au travers c'est, d'une obligation
c'est,
que...
C'est sur eux que là, cette idéologie, elle repose
elle
sur
repose.
Eux, c'est-à-dire sur le fait que... Bah, ils ne fassent pas de favoritisme.
Ouais, ok. Voilà. Ouais, okay.
Donc, pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Bah, comme j'ai dit au début, hein, Trump ou Ney a encore décidé que, oh non, tiens, si on changeait ça. Donc, avec la, il y a une commission qui s'appelle, c'est la Commission fédérale des communications, la FCC. C'est le régulateur des télécoms américains, donc qui vise à défoncer cette loi de 2015. On va dire même que c'est quasiment fait, hein, là, ça va être voté en décembre, mais bon, il a placé juste un gars qui était très très important dans des plus gros télécoms des États-Unis à la tête de la FCC. Et pour être sûr que ça passe quand même, parce que c'était pas sûr, quand t'as juste un mec qui y croit à fond, dans la commission principale, ils ont aussi viré tous les mecs qui étaient pas d'accord. Comme ça, au moins, le 15 décembre, normalement, pas trop de surprises.
C'est la fameuse neutralité de la démocratie.
Voilà,
ça.
Totalement. Okay. Donc bon, bah, pourquoi est-ce qu'on voudrait revenir là-dessus, hein, sur la neutralité du net ? Qu'est-ce qu'on attend de ça ? Et qu'est-ce qu'on voudrait en tant que capitaliste ? Ouh là là, je me frotte les doigts, les mains comme ça, je me dis, ouh, qu'est-ce que je peux y gagner ? Plein d'argent, bien entendu. Je vais vous donner des arguments qui sont contre la neutralité du net.
Ah
ça,
oui.
C'est important quand même de savoir aussi ce qu'ils veulent en face. Pourquoi est-ce qu'ils disent non, mais la neutralité du net, c'est pas bien.
C'est mal.
Oh, c'est le mal.
Vous voyez.
Voilà. Vous voyez. Alors, la neutralité. Donc, s'il n'y avait pas de neutralité du net, ça permettrait de garantir la disponibilité en bande passante avec la création, par exemple, d'offres haut de gamme qui garantiraient un débit honorable même en cas de congestion du débit.
Ah bah oui.
C'est-à-dire la création d'un déséquilibre entre pauvres et riches et en gros. Petit pauvre, excuse-moi, laisse les riches regarder Netflix le samedi soir, parce que bon, on peut pas en donner à tout le monde, donc casse-toi. Voilà. Et sinon, ça permettrait d'assurer l'investissement sur les réseaux, car oui, le coût de déploiement, par exemple, de la fibre optique, ben, ça peut pas être couvert par les abonnements. Alors en fait, non, si même les gars de la NetRed qui sont contre NCD Net ont refait leurs calculs et finalement disent que oui, non, en fait, ça passe. Mais bon, faut pas trop le dire, parce que ça pète un peu le pro. Ils ont que deux arguments, hein, donc.
Le deuxième est plus bon.
Déjà, le deuxième est plus bon, mais bon, je le dis quand même, quoi, c'est bon. Voilà. La fin de la neutralité du net, ça permet donc aux fournisseurs d'avoir un peu plus de poids dans les négociations. Pourquoi ? Et par rapport à qui ? Ils vont pouvoir privilégier des services. Donc en France, par exemple, Free nous l'a fait plusieurs fois en pétant les débits sur YouTube, ou etc. Et en disant, en fait, YouTube, c'est un gouffre en bande passante. Et donc, en tant que fournisseur d'accès à Internet, j'ai beaucoup de mon énergie qui passe pour aller sur ce service-là. J'ai besoin que YouTube me donne un petit peu d'argent pour me permettre d'améliorer mon service, pour lui permettre de fournir autant qu'il faudrait sur ce réseau, sur ce service-là.
Une sorte de double paye.
Exactement.
L'abonnement de la personne,
et
plus
après,
YouTube.
En plus, voilà. Donc, c'est pas la première fois. Hein. Ils ont fait ça plusieurs fois avec plein de gens. Ils ont fait ça aussi un peu à Netflix ces derniers temps, vu que c'est le moins bon en termes de débit. Et cela se solde à chaque fois par une défaite en fait, de Free. Ils n'ont jamais eu d'argent dans leur petit jeu.
À la limite, le gars qui est chez Free et qui en a marre, il se barre ailleurs.
Oui.
Enfin, je veux dire, voilà.
Ah oui, mais complètement. Mais c'est pour ça que le combat, il n'est pas équilibré. C'est que,
oui.
Dans tous les cas, je vais en venir un petit peu après, mais pourquoi est-ce qu'en fait, Free fait un combat un peu dans le vent là ? C'est juste pour me faire genre, oh là là, on est.
C'est un peu le Leclerc du net, en fait.
un petit peu. Donc en fait, dans l'idée, juste pour résumer ça, c'est que Free pense que sans lui, il n'y aurait pas d'utilisateur pour aller sur YouTube. Je prends YouTube en exemple, hein, mais c'est
Il n'y aurait pas d'utilisateur d'Internet sans Free.
Sur Internet sans Free. Enfin, du moins, ces utilisateurs ne seraient pas sur Internet. Si on enlève tous les fournisseurs d'accès, il n'y aura plus personne sur Internet, forcément.
Oui, c'est un peu idiot comme remarque.
Voilà.
Mais...
Et de son côté, YouTube, par exemple, encore une fois, comme tant d'autres services, dit juste, oui, mais si nous, c'est notre plateforme, elle crée du contenu. Et c'est ce contenu-là qui est intéressant, qui fait qu'il y a des gens qui prennent un abonnement sur Internet, en fait. Sinon, on n'existait pas, tu n'existerais pas non plus.
Oui, c'est la poule et l'œuf, quoi.
Exactement. Et en plus, le rapport de force, il est un petit peu pété en fait, parce que si Free dit franchement, Netflix c'est trop un gouffre d'énergie, je vais ralentir les débits sur Netflix. Netflix, il peut très bien dire un jour, Free, tu m'as gavé, c'est bon, j'interdis l'accès à Netflix aux utilisateurs Free. Par contre, ça, il n'y a pas dans le traité du net, pour la petite parenthèse.
Okay.
Le service a le choix de choisir ce qu'il fait.
Ouais.
Mais par contre, le fournisseur n'a pas le droit. Mais
parce
choisir.
Que c'est, parce que c'est pas la même logique.
C'est pas la même logique. C'est pas la même logique.
On est un service, il fait à peu près ce qu'il veut. Exactement. C'est un espace privé, oui, machin. Là, on est dans le finalement la neutralité du net, c'est histoire de voir que les communications sont un bien qui doit être le même.
Exactement.
Pour tout le monde en fait.
Le principe de la neutralité du net, justement, ça répond pas à la question de qui est-ce qui a raison et qui a tort au fait que est-ce que c'est free qui ouais. amène des abonnés, etc. Mais ça prône le côté égalitaire dans le traitement de l'information qui transite, et le seul qui est intervenant dans cette transition d'information, c'est le fournisseur d'accès. Donc bah, en fait, sans répondre à la question, il dit quand même que Free t'a tort. Voilà. Et c'est un peu comme ça partout, hein. Y a jamais, moi je connais aucun site ou service qui a dû remettre de l'argent à un opérateur. Après j'en ai peut-être, c'est peut-être déjà arrivé, mais pas à ma connaissance. Donc si le combat il peut pas se faire entre le service, enfin Netflix, YouTube, etc. et le fournisseur, où est-ce qu'on va bien pouvoir gagner de l'argent? Parce que si on remet en cause la neutralité du net, mais qu'on peut pas attaquer le service, il faut aller attaquer quelqu'un d'autre. Et l'autre personne, c'est l'autre bout, c'est l'autre côté, bah c'est nous, petits utilisateurs, et qui payons déjà notre abonnement tous les mois. Alors sans la neutralité du net, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh ben on pourrait vous forcer à choisir un service. Par exemple, imaginons une alliance entre Free et Canal+, bah ils pourraient imposer d'utiliser d'aller juste avec Canal Play. À la place, c'est quelque chose un peu comme Netflix, etc. Au détriment de Netflix, on pourrait dire bah non, c'est que Canal Play chez nous. Voilà. Ou alors, on pourrait très bien facturer le service plus cher, hein, 2€ de plus pour aller sur Facebook. On ne sait pas. Sur l'actualité, on pourrait vous interdire l'accès à certains sites. Parce que là, on a parlé des très gros trucs, mais quand on enlève la neutralité du net, vu que le fournisseur d'accès a la possibilité de choisir où est-ce que tu as le droit d'aller, eh ben, il peut aussi aller. Enfin, on parle pas forcément de trucs qui ont de gros débits, qui demandent beaucoup de choses. On peut juste dire, bah non, ce site-là, il me convient pas.
Par partenariat, par exemple, un opérateur pourrait dire, bah moi, j'ai que le groupe de presse machin, et le reste, vous le voyez pas, quoi.
Ça, c'est même plus un partenariat. Quand t'as SFR qui a, lui, Libération et l'Express, il pourrait très bien se dire, bah les autres, non.
Oui, voilà, ouais. Oui, c'est même pas du partenariat.
C'est même plus du partenariat, c'est non. T'as juste le droit d'aller sur les trucs de mon groupe, en fait.
Oui.
Et aussi la gestion de la concurrence. Mm. Si un des fournisseurs qui se lance dans un service X ou Y, il y a Orange qui lance une banque en ligne, bah, il peut très bien interdire à tout le monde d'aller sur Boursorama Banque, enfin tous les trucs qui sont en ligne, quoi, pour se dire, bah non, non, ça m'intéresse pas que t'ailles chez la concurrence. Donc, je t'interdis, pour moi, je te la montre même plus, la concurrence.
Ça rend captif, en fait, la personne qui prend un abonnement, comme finalement étaient les abonnements à la télévision.
Totalement.
Selon chez qui tu t'abonnais, t'avais un service point barre, quoi. Mm. Tu pouvais pas avoir autre chose, voilà.
Et ça va encore plus loin, parce que là, j'ai parlé donc de tout ce qui est vos accès en fait qui sont gérés par le fournisseur. Et là, bon, c'est déjà très grave, hein, c'est déjà assez flippant de se dire que ton fournisseur d'accès internet pourra très bien se dire du jour au lendemain, bah non, t'as plus accès à ça, t'as accès à ça, il faut que t'ailles là-dessus. Là, tu peux y aller, mais c'est de manière très très lente. Ou, bah pour y aller, il faut que tu payes un petit peu plus.
Voilà ça, ou genre bloquer un truc, sauf si tu payes.
Ah oui, c'est ça.
Genre, t'as plus accès à tel réseau social, sauf si tu mets 2€ de plus dans ton abonnement.
Voilà. Bah ouais, enfin, de toute façon, si l'idée c'est de créer des nouveaux marchés, ça sera ça.
Ouais,
c'est ça.
Ah, forcément, de toute façon, le but c'est de gagner de l'argent.
Donc, oui.
Et donc ça peut aller encore plus loin, hein, et c'est surtout aux États-Unis, hein, ils vont encore plus loin dans le truc. Quand ils pètent un décret, ils se font plaisir.
Ah, surtout avec l'équipe Trump. Hein,
ouais, l'équipe Trump. S'ils se disent comment est-ce qu'on peut faire encore plus d'argent, parce que c'est important de faire de l'argent quand même. Et donc, en plus de pouvoir te faire payer pour le service, ils vont pouvoir vendre des données, encore plus de données qu'avant. Parce que maintenant, ils vont avoir le droit d'analyser complètement ce que tu fais sur Internet.
Et le vendre.
Et le vendre. Et quand on dit ce que tu fais sur Internet, c'est pas juste. Enfin, c'est déjà. Sur quel site, voilà, tu veux aller. T'as consulté un site pour aller acheter une maison. Hop, bah ton numéro, il part vers tous les crédits de consommation, tous les trucs comme ça. Et comme ça, t'es appelé dans la foulée.
Bon. Mais c'est super flippant, alors, des objets connectés, quoi.
Ah oui, non, mais ça, c'est.
Parce qu'entre les mondes connectés, les portes connectées, les portables et tout, mais en fait, on peut vendre ta vie, quoi, en fait.
Ah, mais complètement.
C'est...
Oui. Là, on pourrait aller encore plus loin dans le. On peut vendre ta vie. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, je tombais dessus dans le bus, justement, en arrivant, c'est YouPorn.
Qui est tombé sur YouPorn dans le bus.
YouPorn. J'arrive souvent dans le bus, je regarde YouPorn, c'est incroyable. J'aime beaucoup faire ça. Non, je tombais sur un tweet juste de YouPorn qui expliquait en gros et qui dit bah, que eux ils vont surcrypter en gros leur site pour pas que les fournisseurs d'accès aux États-Unis puissent savoir si tu préfères telle catégorie ou telle catégorie.
Ah oui. Okay.
Parce qu'il y a ça aussi qui peut être pris en compte en fait. Okay. Et donc il y a une magnifique punchline, mais c'était juste pour se la faire un petit peu classe, mais je la trouve drôle quand même. C'est eh oui, vous êtes en 2017, une année où les sites internet se préoccupent plus de vous que votre gouvernement. J'ai trouvé ça sympa. Et donc voilà, donc là bon, on en parle, on en rigole, etc. Mais c'est clairement sur les libertés que ça commence à taper. Les retombées vont être assez dures. Un arrêt total de la neutralité du net, c'est clairement nos libertés qui sont très très impactées. Ça commence aux États-Unis, hein, et ben en espérant que ça donne pas de mauvaises idées à d'autres pays, même si ça va le faire, mais espérons que
c'est pas toujours
contre ça,
ça
tout de suite, quoi. Voilà, c'est très grave. Et voilà, qu'est-ce que vous avez des choses à dire, des choses intéressantes, moins intéressantes?
Alors moi, ce sera pas intéressant, mais c'était juste pour dire, je comprenais, enfin, je savais pas, et, enfin, je savais pas trop ce que c'était cette neutralité du net en fait. Mais effectivement, merci pour ces.
De rien.
Cet éclairage.
Cet éclairage.
Non mais ce qui pour moi m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point on veut toujours faire du fric avec tout.
Ah oui,
c'est-à-dire que là, on a quand même. Mais c'est la même logique que pour l'eau, hein, finalement, où on a donné l'eau à des entreprises privées qui le font au prix qu'elles veulent. Les ordures, pareil, et voilà. Et là, en fait, sur le net, on avait un principe de base qui était quand même pas con, qui était de dire, t'as un accès, quoi. Et on regarde. Et là, ouais, maintenant, on dit, subdivisons, découpons, machin et tout. Et encore une fois, on revient dans des logiques ultra-capitalistes où, comme tu le dis, c'est les pauvres à la fin qui restent sur le côté. À l'heure où, dans le même temps, je vous rappelle que notre cher gouvernement français vient d'annoncer que tous les rapports à l'administration, par exemple, vont se passer via Internet à partir de 2021. Voilà. Donc ça veut dire que si t'es pauvre, tu seras deux fois plus pénalisé, encore une fois. Ouais. Comme aujourd'hui, mais en pire.
Surtout, on peut être sur des trucs très graves, en fait. Parce que quand on y pense vraiment, il pourrait très bien se passer demain, on te dit 5 € pour accéder à Wikipédia. Wikipédia, qui est dans l'esprit une encyclopédie collaborative, gratuite, etc. Donc ça, on peut aller à l'encontre même des esprits, enfin de choses d'internet, quoi, des fondamentaux. Donc ça peut vraiment partir n'importe où avec un truc comme ça.
Oui, mais ce sera bon pour la croissance.
Ah oui, la croissance, c'est important.
Effectivement.
Et temps de mettre de la musique.
Allez, on fait ça. Touché coulé, touché coulé. Toi, qu'est-ce que tu pensais de moi? Ton ordi, tu poses tes doigts, on s'agresse, on se noie. Force pas, ton compliment ne vient pas. Vas-y jusqu'au bout où je resterai à genoux. Touché coulé, tu m'as touché, touché coulé. J'ai été coulé, touché coulé, tu m'as touché, touché coulé. J'ai été coulé, touché coulé, tu m'as touché, touché coulé. J'ai été coulé, touché coulé, tu m'as touché, touché coulé. Toi et tes beaux discours, j't'ai jamais dit que t'étais lourd. Tu te crois bien sûr de toi, alors on s'y croit. On critique tout, on aboie. Blanc, black, beurre ou chinois, on descend du même toit. Donne-moi ton cœur à ton tour de quoi. T'as l'air qu'en plein jour t'es pas libre de tes choix. Je crois que t'es rabat-joie. Un pour la monnaie, deux pour nous. Jolie mentalité, trois. Rien à foutre du style, on tient, on est. Tu m'as touché, touché, j'ai été coulé, touché. Tu m'as touché, touché, j'ai été coulé, touché. Tu m'as touché, touché, j'ai été coulé, touché. Tu m'as touché, touché, j'ai été coulé, touché.
Touché, 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 touché
retour à la causerie Radio Canu, 22h, 23h tous les dimanches soirs. Et on vient de s'écouter une musique que, à la base, je déteste. J'ai écouté ça pour la première fois un jour et j'ai trouvé ça, mais... Oh là là, mais pourquoi ?
Mais je me posais la question.
Alors, et finalement, à force de l'écouter, alors pourquoi j'ai écouté ça plusieurs fois, je ne sais pas. À force de l'écouter, j'ai trouvé ça sympathique. Là, juste dans le studio, on a tous dansé pendant 2030.
C'est vrai. On avoue.
Voilà. Et le clip, que au début, je me disais, mais pourquoi les deux, ils ont fait de la musique alors ils ont l'air de s'embêter, quelque chose de fou. Et plus je regarde ce clip, plus je trouve qu'ils s'amusent. Je sais pas, ce clip me, voilà, m'amuse. Et donc, c'était.
Ça te révèle à toi-même, ouais. En fait.
C'était donc Touché Coulé. Ils l'ont répété 27 fois pendant la chanson. Touché Coulé du groupe Éléphant.
C'était bien.
Mais ouais, c'est maintenant je trouve ça cool en fait. Et donc bah maintenant c'est Fab qui va continuer à vous parler, hein,
oui,
et parler de du journaliste.
Ouais, je vais parler des journalistes et de notre rapport en fait aux journalistes plutôt parce que c'est ça qui est important je trouve. En fait, on sent quand même depuis quelques temps qu'il y a une sorte de défiance qui se met en place vis-à-vis des journalistes globalement et contre la presse en général. Mais aussi, et là je le dis, je le redis, c'est là où ça m'inquiète plus, c'est qu'avant on avait une défiance contre la presse, maintenant on a une défiance contre les journalistes, c'est-à-dire le métier de journaliste. Alors bon, que l'extrême droite et les réactionnaires fustigent les journalistes, on est assez habitués, hein, ça c'est pas anormal, ils le font depuis le début, en fait, depuis qu'ils existent, donc voilà, y a rien de grave. Et on dirait même que c'est un peu la coutume, hein, chez les réacs. Mais en fait, là on peut se poser des questions, c'est quand les journalistes sont pris pour cible dans les camps qu'on dirait plutôt progressistes, et avec des arguments qui, moi, me choquent un peu parce qu'ils sont quand même un peu étranges. Alors, je vais vous faire un petit florilège de choses lues ou entendues qui m'ont quand même pas mal fait sourire. Alors bon, il y a l'éternel et toujours qui marche à tous les coups. Les journalistes sont des servants du capital. Voilà, ça marche tout le temps. Les journalistes sont tous sionistes. Alors ça pue un peu l'antisémitisme hein, quand même.
Mais ça vient d'un camp progressiste.
Alors ça, tout ça, j'y ai trouvé, c'est pas compliqué. Soit dans des interviews, je vous dirai pas de qui, soit sur des forums ou des trucs, des pages de partis politiques dits de gauche. Voilà.
Sérieux?
Oui, oui. Donc voilà, dans les commentaires, mais donc c'est pas modéré. Hein, donc on voit bien que ça ne dérange pas. Hein. Les journalistes servent avant tout les intérêts des puissants. Voilà, les journalistes sont tous corrompus, évidemment, et les journalistes n'aiment pas les anarchistes. Voilà, ça je sais pas pourquoi.
Et mais les pommes de terre.
Et aussi accessoirement de terre, il paraît qu'il les ravioles, il les digère pas non plus. Alors bon, bref, etc., etc., c'est toujours un peu en mode grands ensembles et sans preuve. Hein. C'est le truc, les journalistes, c'est marrant parce que ça marche avec tout, hein. Ça l'est, quelque chose, voilà. Donc on voit que ça va pas très loin, sauf que le problème c'est que la défiance elle est quand même vachement marquée. Et pourtant en fait c'est gênant, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord qu'une critique de la presse c'est un pas de recul sur les informations que l'on reçoit, mais aussi que l'on garde toujours allumé son esprit critique, c'est légitime et logique. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire à la causerie, voilà, garder l'esprit critique. Mmh. Une association comme Acrimed, Association Critique Média, qui intervient d'ailleurs souvent dans le Canu Info du jeudi, coucou à eux, démontre d'ailleurs la nécessité de critiquer les choses et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Donc par définition, qu'il y ait une critique de la presse, c'est plutôt sain et c'est une bonne chose. D'ailleurs, je vais le dire, je vais le redire, ça s'applique aussi à la causerie. Moi, j'ose espérer que les gens qui nous écoutent ne prennent pas tout ce qu'on dit pour argent comptant et critiquent nos positions, les contredisent, les affirment, les affinent. Voilà. Même si nous ne sommes pas des journalistes au passage.
Des fois, on dit n'importe quoi.
Oui, mais les gens ne s'en rendent pas compte.
Oui. Oh, mais non, on essaie quand même de dire des trucs.
Mais non, c'est pas vrai. Non, mais voilà, mais je trouve que c'est important, y compris ouais. Pour les gens qui nous écoutent, bah, de se poser des fois, de se dire, bah non, tiens, je suis pas d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire. Donc oui, les médias, on le sait, sont orientés. Certains sont de droite, d'autres de gauche, certains sont anarchistes, d'autres fascistes. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. Mais en soi, c'est pas grave, parce que c'est la pluralité, en fait, des paroles. Alors c'est vrai qu'en France, on croit souvent à la neutralité journalistique, ça c'est un truc très franco-français, hein, je dirais même. Honnêtement, dans les pays anglo-saxons, en général, on vous dit que ça n'existe pas la neutralité journalistique, qu'un journaliste il est forcément orienté dans le sens où il a un point de vue. Alors par contre, il doit être neutre sur les faits, c'est-à-dire qu'il doit essayer. Par contre, l'interprétation des faits, c'est l'interprétation d'une personne, donc forcément, ça ne peut pas être neutre. Alors, c'est pour ça que les journaux anglo-saxons, généralement, affichent plus facilement, ou même les journaux allemands, d'ailleurs, affichent plus facilement de quel bord ils sont. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on soutient la coalition Merkel, nous, on soutient machin. Donc ça, au moins, on sait ce qu'on lit, quoi. Pourtant, soyons clairs, personne ne peut donc être neutre, et relater des faits n'est pas gage d'être neutre. Je le redis. C'est-à-dire qu'on peut relater des faits d'une certaine façon. C'est ce qu'on fait nous aussi, hein, d'ailleurs. Mais c'est là que le souci se place. Partir du principe que la presse est orientée pour dire que du coup, elle doit être rejetée dans son ensemble, c'est une erreur assez grave. Parce que au final, de la même façon, c'est faire une généralité sur les journalistes, c'est faire une généralité sur la presse, qui revient à faire une généralité sur les journalistes, et c'est finalement dangereux pour la notion même de démocratie. Oui, j'emploie des grands mots ce soir. Oui, parce que sans connaissance du monde, des faits et des choses qui composent notre société, il est impossible d'avoir une démocratie dite éclairée. Par définition, si vous ne comprenez pas le monde qui vous entoure, ben, difficile de faire des choix, quoi. Qu'elle soit républicaine ou anarchiste, la société ne pourra et ne peut se passer d'offrir un degré d'information élevé pour les personnes qui composent la société. Sans quoi, les décisions sont prises à l'instinct ou en suivant celui qui gueule le plus fort.
C'est ça.
Principe même d'une... Bah oui. Alors donc, quel est le rôle, en théorie, et le métier du journaliste ? Dans les faits, c'est avant tout de compiler et de rendre compréhensibles des faits pour que le plus grand nombre puisse en emparer. Ça, c'est la base du journalisme, c'est voilà. Et je vais vous donner quelques exemples. Ben, récemment, on a les Paradise Papers, vous savez. Là, c'est 347 journalistes qui se sont paluchés 14 millions de pages, d'équivalent de pages papier, pour sortir tout ce qu'il y avait dans les Paradise Papers. Et en fait, pour nous expliquer ce qu'il y avait dans les paradis fiscaux. Alors, ça a l'air comme ça tout bête, hein. Moi, j'aurais aimé que ça fasse plus bouger les gens, mais c'est quand même un boulot énorme de 347 journalistes dans le monde qui sont allés, ben, prendre les documents, les éplucher, les expliquer et nous les rendre accessibles. La collusion entre la Russie et le camp Trump a été révélée par des journalistes politiques américains. De la même façon. D'ailleurs, pour info, dans les trois journalistes politiques américains qui ont révélé cette collusion, il y en a deux qui étaient républicains, qui s'affichaient comme étant proches des républicains. Donc on voit qu'il y a quand même la notion de dire, bah, j'ai un fait, bah oui, mais c'est mon métier quand même de dire, oui, là il y a un problème, vous voyez, même si ils sont du camp, entre guillemets, du président. Le cas Harvey Weinstein, Weinstein, je crois ça se dit, donc qui a donné les balance-ton-porc qu'on connaît maintenant aujourd'hui, ben en fait, ça a été sorti au départ par un journaliste américain aussi. C'est quand même un gars qui avait fait une enquête et qui l'a sorti dans trois journaux aux États-Unis. Voilà, d'ailleurs, c'est le fils de Woody Allen.
C'est ce que j'allais dire, c'est le fils de Woody Allen.
Le financement occulte de la campagne de Sarkozy, ben, on voit aussi que c'est des journalistes qui déterrent en fait ce qui s'est passé entre Sarkozy et Kadhafi. Et que ben, s'il n'y avait pas de journalistes, eh ben, on ne le saurait pas. Hein. Le lien entre l'amiante et les cancers professionnels a d'abord été mis sur la place publique par des journalistes du Canard Enchaîné. Des révélations sur le clan Le...
Oui. Mais qui eux avaient peut-être des sources aussi.
Qui avaient des sources, mais leur métier c'est de les mettre en lumière. Je dis pas que c'est eux qui créent le truc, mais c'est que grâce à eux, du fait que ça passe par leur prisme, en fait, ça l'éclaire. Les révélations sur le clan Le Pen aussi. On oublie ça, mais en fait, que les gens découvrent en fait qui était réellement Jean-Marie Le Pen et sa fille, Marine Le Pen, et le fait qu'ils avaient des châteaux et compagnie, bah, c'est des journalistes qui ont sorti les affaires et qui ont sorti les comptes en banque cachés, notamment. Les révélations aussi sur Free et Lidl, qu'on a eu il y a pas très longtemps dans Cache Investigation. Vous voyez, c'est des exemples parmi tant d'autres de ce qui tourne aujourd'hui et de ce qu'on a grâce en fait à des gens qui font leur métier, tout simplement. Et donc toutes ces choses sont issues de journalistes qui ont ce qu'on appelle un travail pour la vérité, c'est-à-dire que c'est pas des journalistes stars qui font des trucs pour voilà, c'est des gens qui trouvent une info, ils se disent bah c'est important que les gens soient au courant, vous voyez. Parce que oui, comme dans toutes les professions, on va être très clair, il existe des journalistes pourris. Ça, c'est un fait. Mais dire que parce qu'il y a quelques pourris, tous les autres, faut les jeter, c'est complètement stupide. Sinon, il n'y aura plus personne dans le milieu militant non plus. Hein.
Non, parce que justement, en fait, ce genre de propos concerne tout l'extérieur, voilà. Mais pas l'intérieur. Non, je veux dire,
c'est propre à tout groupe humain. Mais il y a des gens bien, des gens pas bien, et c'est comme ça. Dans le monde actuel, qui est dominé par les multinationales et les gouvernements libéraux économiques, plus que jamais, les contre-pouvoirs sont importants. Et le journalisme est un contre-pouvoir. Et justement, détruire le journalisme, c'est détruire l'un des principaux contre-pouvoirs d'information. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que plus que jamais, on se rend compte qu'on a besoin de personnes pour aider et décrypter la société, et surtout à décrypter ce qu'on ne comprend pas. Je reviens au Paradise Paper. Si on n'a pas 347 personnes qui se mettent devant 14 millions d'équivalents de pages, qui sont prêts à le faire et à passer un temps fou, et ils l'ont fait pour certains en dehors de leurs heures de travail, c'est-à-dire c'était en plus du reste, c'est juste énorme quoi quand même. C'est là justement que nous avons besoin aussi de journalistes formés, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est un métier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, apprendre à recouper l'information, bah, ça ne s'apprend pas sur un coin de table et sur le gaz, quoi. Et à un moment donné, faut être un peu formé. Ça ne veut pas dire que les écoles de journalistes ne sont pas critiquables, mais ça veut dire que avoir des outils de linguistique ou des choses pour apprendre à écrire correctement, à recouper des faits, c'est aussi important, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est un métier. Et puis il faut surtout de la pugnacité. et être capable de poser les choses clairement ensuite. Parce que faire un joli travail, si on n'est pas capable de l'expliquer, bah, ça servira à rien non plus. D'ailleurs, on voit bien que, d'ailleurs, que la méthodologie journalistique, qui est tellement décriée, y compris chez les progressistes, bah, on finit par se l'appliquer à nous-mêmes. Il suffit de lire tous les sites militants et rebelles de médias libres pour se rendre compte que tous les articles commencent à ressembler à des articles journalistiques. C'est pas grave, c'est juste qu'en fait, c'est le seul outil qui rend intelligibles les choses. C'est-à-dire, il y a un ordre pour poser des faits, et qu'une fois que vous avez posé les faits, vous posez une conclusion. Parce que si vous faites les choses dans le désordre, bah, en général,
c'est juste pas compréhensible.
Donc, il y a rien de honteux, en fait, à utiliser ces outils-là. Et pourtant, c'est aussi sur ces médias-là, et parfois même dans les médias dits rebelles, en général, ou révolutionnaires, qu'on a la plus grosse critique envers les journalistes, alors que finalement, on se rend compte qu'on se transforme un peu, nous, avec les mêmes outils qu'eux. Je sais pas si vous voyez, il suffit d'écouter Radio Canut pour se rendre compte que la plupart des émissions de radio, y compris La Causerie, ressemblent dans des formats qu'on peut trouver ailleurs, et parce que bah, on sait que c'est des formats intelligibles et qu'on a envie d'être compris par les gens, sinon on ferait autre chose, quoi. De la même façon, on voit les Paris Lutte Info ou Rébellion, par exemple, on se rend compte de plus en plus que les articles sont moins fouillis qu'avant et beaucoup plus linéaires, où on comprend, il y a un début, un milieu, une fin, une conclusion, machin, et c'est normal parce que sinon, eh ben, on passe pas d'idées. Et que donc, en fait, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a aussi cet outil-là qu'il faut accepter et pas rejeter avec l'eau du bain, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous donner une preuve que le journalisme d'investigation dérange. Stan, tout à l'heure, tu parlais des journaux en France qui sont rachetés par des grands trusts, Altice, je crois, c'était pour Libération, et voilà. On a aussi Dassault qui a le Figaro et autres. Ça, c'est un moyen de museler. Et on le voit aussi, et quand on n'arrive pas à museler, on voit que c'est le service public qui finit par faire le travail. C'est-à-dire que, bah, par exemple, l'envoyé spécial, cache d'investigation, complément d'enquête, sont reconnus dans le monde entier, c'est pas qu'en France, comme des émissions d'investigation de très haute qualité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des journalistes, qui font un boulot d'enfer dans ces émissions pour aller chercher l'information, pour la rendre audible, pour essayer d'être le pas neutre, mais de donner deux ou trois points de vue à chaque fois sur l'information.
C'est pas que Élise Lucet, hein.
Oui,
c'est une équipe derrière.
Ah, tout à fait, mais elle le dit elle-même, d'ailleurs.
Elle le dit, mais les gens des fois l'oublie en disant ah Élise Lucet, elle fait vraiment non, c'est une armée de mecs qui sont
c'est l'équipe de Cache Investigation
qui vraiment s'investissent à fond, quoi.
Et donc en fait quand vous êtes disons ministre d'Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron il dit ouf, ça m'énerve ces émissions d'investigation parce qu'il commence un petit peu à gratter du côté de la France en marche, tout ça là, mon parti les amis, tout ça, et puis ils ont sorti des trucs sur Castaner, et puis c'est eux qui ont quand même sorti faudrait faire quelque chose. Alors bon, évidemment il dit pas ça comme ça, hein, il dit faut faire des économies. Hein? Et donc à France 2, on vient d'apprendre donc que pour faire des économies, on va réduire le taux de passage de cache investigation, envoyé spécial et complément d'enquête, en les mettant tous les trois à 20h30 au lieu de les faire à la suite comme c'était le cas aujourd'hui, et en les en passant en fait de 3 fois à 4 fois par mois à une fois par mois. Voilà, ça c'est bien. Et puis surtout, on va leur sucrer 33 salariés. 33 journalistes, comme ça au moins on est sûr qu'ils feront le moins bon travail. Alors juste, je suis taquin, je suis allé chercher des chiffres. Alors Cache Investigation, envoyé spécial et complément d'enquête ensemble, en termes de budget pour France 2, c'est même pas la moitié du budget des émissions de Nagui. Voilà, je voulais juste le dire. Donc en fait en France on préfère sabrer dans le journalisme d'investigation que d'enlever N'oubliez pas les paroles une fois ou de ne de pas donner à Nagui 29 émissions par semaine. Voilà. Voilà. C'est juste pour...
Gros bosseur, Nagui.
Gros bosseur, quand même, hein, monsieur. Vous pouvez aussi faire la même chose avec Ruquier. Donc, on le voit, donc, de tout temps, en fait, les tenants des manettes, hein, comme on dit, ceux qui ont l'argent, cherchent toujours à sabrer tout ce qui est journaliste d'investigation et de révélation. Donc, quand nous, en fait, dans nos milieux, on va dans le sens des gens qui tiennent les manettes, on devrait se poser des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on devrait se dire, on ne devrait pas parler comme eux, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas, à un moment donné, se dire qu'il faut jeter tous les journalistes et ne jamais les recevoir et ne jamais accepter d'être interviewé et tout ça, parce qu'en fait, en réalité, on va dans le même sens, finalement, que ceux qui ne rêvent que d'une chose, que les gens n'aient pas l'information, tout simplement, en fait. Et voilà, c'était juste ce rappel-là que je voulais faire ce soir.
Ce qui est, le rêve que tu viens de donner, c'est un petit peu une dictature. Hein. On n'oublie pas, quand il y a une dictature qui se met en place,
c'est
les premières choses qu'elle fait, c'est virer tous les journalistes, enfin plus de médias, comme ça au moins, hop,
pas de problème.
C'est ça.
Beaucoup d'informations.
Donc voilà, je voulais vraiment souligner ça parce que ça me choquait beaucoup qu'aujourd'hui il y a une vraie vague que je trouve personnellement réactionnaire vis-à-vis du journalisme. Ouais.
Mais en même temps qu'une partie des milieux militants soit réactionnaire, en fait, ça se confirme, je crois, de jour en jour, malheureusement, et que ça concerne effectivement aussi le journalisme, en fait, et que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le journalisme, le média, c'est un outil, c'est une manière de. Après, ce que ça en sort, etc., c'est des positions politiques à la rigueur. Mais au-delà de ça, en fait, il est où le problème, en fait, d'être informé, c'est un problème. Si être informé devient un problème, sauf par des médias militants, on commence à être un peu fermé sur nous-mêmes et à moisir, quoi. Hein.
Ouais, puis même sans ça, moi je pense qu'il y a des journalistes militants aussi. Ça existe.
Ah, oui. C'est-à-dire
que partir du principe que ça n'existe pas est une connerie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui, dans le monde, font les choses par pure militance et qui gagnent pas de fric à le faire, donc voilà.
Puis si on n'est pas au courant de comment pense ou comment voit les choses des gens avec qui on n'est pas d'accord, il y a encore moins de débat, je veux dire, on est vraiment dans le rejet du truc, c'est-à-dire que vous n'existez pas et on n'avance pas dans ce cas-là.
Et on reste et on se cloisonne sur nous-mêmes et ça sert à rien et c'est le meilleur moyen de moisir, quoi.
Exactement.
Et je voulais rajouter un truc, et que surtout c'est aussi faire croire et que les médias militants, eux, sont
pas orientés.
Ça ils sont purs, ou je sais pas. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi. Enfin, je veux dire, on sait tous plus ou moins ceux qui traînent au milieu des médias et tout. Bah, c'est pas toujours plus éthique que un journaliste qui bosse pour Le Figaro ou pour un journaliste qui bosse pour Libération. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir aussi, quoi.
Ça fait très. J'ai la vérité absolue, mais je me remets pas en question, quoi. Surtout pas.
C'est exactement ça. C'est ouais.
Et c'est pour ça, garder l'esprit critique.
Tout le temps.
Et moi, je suis pour la pluralité des médias. Je trouve ça bien.
Bah ouais.
Bah non, mais c'est clair. Pour moi, c'est vachement plus intéressant que d'avoir, comme tu disais, Stan, plus de médias. Mais après, on sait pourquoi on n'a plus de médias.
C'est ça. Donc. On passe à la zic ?
Ouais.
Allez.
The very old story. Very old, very star. It's a very old story. So that
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et donc, c'était Dénès Prigent que vous venez d'entendre dans un remix avec sa chanson An Old Story, qui parle d'une vieille histoire très triste.
Il chantait en anglais ou...
Il chantait en anglais, en breton et en gaélique.
Ah, c'est pour ça qu'on a eu un appel de Laurent Wauquiez qui disait il faut parler français.
Non, il a dit non, langue régionale.
C'est ça.
Ouais, voilà, non, mais c'est intéressant parce que c'est un titre vraiment, pour ta blague, me permet de le souligner, en trois langues. Parce que c'est en fait une chanson qui se retrouve dans les trois langues, en fait, qui se balade dans ce qu'on appelle les pays celtes. Mmh. C'est marrant. Voilà.
Ok. Et ben, vu l'heure, on passe vite au bref. C'était ça que tu voulais rajouter un truc?
Non, je veux dire, on va au bref.
Et bien, allons-y alors.
Et donc, les brèves. On va commencer par le lundi 27. Et comme tous les lundis, il y a la permanence juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs proches à La Lutine, à 18h30, 20h, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e à Lyon.
Yes, la suivante, c'est toujours lundi 27, c'est la projection du second volet du documentaire « Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchie ». Ça sera toujours en présence du réalisateur Tancrède Ramonet, de Daniel Colson qui est sociologue et de Jean-Christophe Angot qui est philosophe. Et ça se passe à la MJC Mon Plaisir à 19h, donc lundi 27. Et la MJC Mon Plaisir, c'est 25 avenue des Frères Lumière. Et je trouve que c'est génial de pouvoir faire des diffusions comme ça dans des MJC et pas que dans des lieux très fermés, militants.
Entrée à prix libre. Et c'est dans le cadre de Novembre Libertaire.
Ça, c'est génial. Allons-y, la suite.
Alors, toujours dans le cadre de Novembre Libertaire, mercredi 29 novembre, c'est la rencontre entre les éditrices de la revue Panthère Première, celle du fanzine Nos Corps à Nous et les organisatrices du CDI. C'est une présentation croisée suivie d'une projection discussion du documentaire Regarde, elle a les yeux ouverts. Alors, Regarde les yeux ouverts, c'est un documentaire qui sur le MLAC. Le mouvement de libération, je l'ai pas noté. Donc en fait, c'est autour de l'avortement, pardon.
D'accord.
C'était des femmes qui pratiquaient l'auto-avortement, ou l'avortement autogéré. Voilà.
Ou de la contraception.
Une contraception aussi, oui, mais voilà, pardon. Okay. Je suis désolé. Mais voilà, donc c'est une soirée féministe ouverte à toutes et tous. C'est à 18h au Rita Plage, 68 cours Tolstoï, 6900 Villeurbanne. Et c'est donc le mercredi 29 novembre.
Ensuite, on passe au jeudi 30 novembre, et c'est pas dans le cadre du mois libertaire, mais c'est intéressant quand même. C'est la projection du documentaire Une autre montagne, à 20h, et c'est donc. C'est un film docu qui est sur les luttes des femmes kurdes, et ce sera précédé d'un repas à prix libre, et ce sera suivi d'un débat avec les réalisatrices, et le tout c'est encore une fois au Rita Plage, au 68 cours Tolstoï à Villeurbanne,
un lieu qui décidément est vivant.
Ah ouais.
Et dans le cadre de Novembre Libertaire, le vendredi 1er décembre 2017, c'est l'inauguration de l'expo photo Portrait de syndicalistes du nettoyage. Alors c'est proposé par la CNTSO. À l'occasion de Novembre Libertaire, la CNT Solidarité propose aux militantes et militants de l'agglomération lyonnaise de venir découvrir son local situé au 8 rue Paul Lafargue à Villeurbanne lors de l'inauguration d'une expo photo des adhérentes du nettoyage. Et c'est à partir de 16h.
Ok, et toujours vendredi 1er décembre, il y a l'initiation aux pratiques d'autodéfense numérique, et ce sera apprendre à chiffrer ses mails. Et c'est donc face à ces constats, la seule voie praticable semble être de devenir capable d'imaginer et de mettre en place des politiques de sécurité adéquates pour vous aider dans le selon le cheminement. Le collectif Boom fournit depuis plusieurs années des conseils et recettes adaptées pour s'orienter dans les méandres parfois hostiles de la jungle numérique. Des passionnés lyonnais se proposent de vous présenter succinctement ce guide et surtout de le mettre en pratique avec des exercices simples. Pour cet atelier, nous vous proposons d'apprendre à chiffrer vos mails. Viens avec ton ordi à 19h30, le vendredi donc 1er décembre, à l'atelier des canulaires. Des canulars.
Des canulaires.
Eh ouais, pardon. Au 91. Montesquieu, dans le 7e arrondissement. Et je voulais peut-être juste rajouter un truc, je crois que c'est le 1er décembre aussi qu'il y a un rassemblement pour la lutte contre le sida.
Tout à fait.
Et alors on l'a pas...
Place Bellecour, c'est donc à Place Bellecour, je crois que de mémoire c'est à 19h, mais vérifiez ça.
Et c'est le 1er décembre normalement.
Comme chaque année, le 1er décembre, ouais, tout à fait.
Voilà, pardon.
Et le 2 décembre, pour clôturer le mois de novembre libertaire, donc c'est la soirée de clôture du mois de novembre libertaire, hein, et pour connaître le lieu et qui joue, rendez-vous sur novembrelibertaire.info.
Ouais. Toi, tu avais la brève, la plus brève de la soirée.
C'est très ouais, bah ouais, et puis ça invite vraiment à y aller, quoi, parce qu'il faut que t'envoies un mail pour savoir où tu dois aller. Enfin bon. Voilà, voilà.
T'es taquin.
Oui, je suis taquin. Mais l'esprit critique, c'est aussi dans nos propres milieux.
Mais tu es taquin. Ouais.
Tout à fait.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ben, je crois bien.
Normalement, si tout va bien.
On vous abandonne sans musique.
Ouais.
Bah, enfin, c'est pas notre musique à nous, mais il y aura évidemment les célèbres, délicieuses bandes continues de Radio Canus.
Peut-être ça sera une des nôtres.
Peut-être.
Ou pas. Mais dans tous les cas, c'est bien.
Oui.
C'est ça qui est bien à dire. Oui.
Il est taquin, vous l'avez pas vu, mais
ce soir, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Et juste quand même prévenir les auditrices et auditeurs d'une chose très très importante. La causerie sera là le 24 décembre. Voilà.
Certains en tout cas.
Ouais, certains,
oui,
mais
certains.
Mais il y aura une causerie.
Ouais. Voilà. Je crois qu'on a déjà fait ce genre d'expérience dans les années passées et que bah voilà, tout le monde ne sera pas forcément en famille ou autre dans ces genres de soirées de soi-disant de fêtes et que ben vu qu'on s'en tape pas mal certains en tout cas de la Noël et toutes ces choses là, et ben on viendra tenir compagnie aux oreilles de celles et ceux qui ne sont pas forcément entourés.
Voilà.
Voilà.
Merveilleux.
Bah.
Oh ouais, c'est génial.
Et ben on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Eh ben oui. Des bisous. Donc,
des bisous, tout ça.
Et des câlins. Et plein de tendresse.
Ouh.
Toi, t'es chaud, chérie.
Et c'est parti pour les bandes continues.
Allez, ciao.